vous propose une lecture dans l'Ancien Testament, 2 Samuel, chapitre 5. Et nous lirons à partir du verset 16. Et les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et tous les Philistins montèrent pour chercher David. Et David l'apprit et descendit à la forteresse. Et les Philistins vinrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. Et David interrogea l'Éternel, disant, « Monterai-je contre les Philistins ? Les livreras-tu en ma main ?» Et l'Éternel dit à David, « Monte, car certainement je livrerai les Philistins en ta main. » Et David vint à Baal-Pératsim. Et là David les frappa. Et il dit, « L'Éternel a fait une brèche au milieu de mes ennemis devant moi, comme une brèche faite par les eaux. » C'est pourquoi il appela le nom de ce lieu Baal-Pératsim. Et ils laissèrent là leurs idoles. Et David et ses hommes les emportèrent. Et les Philistins montèrent encore de nouveau et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. Et David interrogea l'Éternel. Et il dit, « Tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière et tu viendras contre eux vis-à-vis des mûriers. » Et aussitôt que tu entendras sur le sommet des mûriers un bruit de gens qui marchent, alors tu t'élanceras, car alors l'Éternel sera sorti devant toi pour frapper l'armée des Philistins. Et David fit ainsi, comme l'Éternel lui avait commandé, et il frappa les Philistins depuis Geba jusqu'à ce que tu viennes vers Guézar. Alors dans le cantique, nous avons eu cette pensée de la paix du cœur, de la forteresse, de l'appui que nous trouvons dans le Seigneur. Ici, dans cette portion des Écritures que nous venons de lire, il s'agit de David. David qui a longtemps fui devant ses ennemis, ceux qui voulaient le tuer, qui a longtemps été persécuté, et à cette époque de sa vie, on apprend maintenant qu'il devient roi. Dieu avait prévu que David devienne roi. Il passe de persécuté à celui qui obtient le pouvoir. Et puis, tout de suite, maintenant qu'il est en place, selon la pensée de Dieu, il est maintenant roi sur Israël, les problèmes commencent ou recommencent. Et ce sont les Philistins. Les Philistins donc apprennent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Et il nous est dit là, tous les Philistins montèrent pour chercher David. Voilà, l'ennemi se mobilise pour faire tomber ce que Dieu a établi. Et dans ce passage que nous avons lu, nous voyons David, bien qu'il soit devenu roi maintenant, il reste dépendant. Il reste dépendant de Dieu et en lisant ces lignes, nous ne voyons pas qu'il s'alarme. Il y a un problème. Il y a les ennemis qui se mobilisent et qui viennent contre lui. Mais on pourrait dire qu'il a la paix dans le cœur parce qu'il sait sur qui s'appuyer. Et il nous est dit là, et David l'a pris. Et il descendit à la forteresse. Est-ce que nous faisons ça, nous aussi? Lorsque nous apprenons qu'il y a danger, qu'il y a problème, est-ce que nous allons nous réfugier dans la forteresse? Alors, qui est notre forteresse? Les Écritures nous le disent. L'Éternel est mon fort. Le Seigneur Jésus est ma forteresse. Il est ce rocher stable, éternel, sur lequel je peux me reposer. Et c'est très beau de voir que David, on le considère dans les Écritures jusque-là comme celui qui s'est appuyé sur Dieu parce qu'il avait beaucoup de problèmes. Mais le jour où il est établi dans une position plus élevée, où il a lui-même l'autorité, il est très beau de voir qu'il reste dépendant de l'Éternel. Il a maintenant le pouvoir de donner des ordres en tant que roi. Et pourtant, il ne donnera pas d'ordre sans d'abord avoir consulté l'Éternel. C'est très joli de voir ça. Ça nous fait penser à l'exemple parfait du Seigneur Jésus, qui était cet homme dépendant tout au long de sa vie sur la terre. Maintenant, où est-il? Où se trouve le Seigneur Jésus? Il est dans la gloire du ciel. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. L'homme de douleur, qui est aussi aujourd'hui l'homme ressuscité, n'a pas changé. Il est le même. Ici, David nous en donne un exemple, aussi dans la vie pratique. David l'a pris, il descendit à la forteresse. Voilà la première chose à faire. Ça, c'est un bon réflexe, on pourrait dire. Il y a des bons réflexes dans la vie. C'est de se tourner vers le Seigneur quand on a un problème, par exemple. Il peut y avoir des mauvais réflexes aussi. On y viendra. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors, on voit le problème s'intensifie. Les Philistins vinrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. Voilà. Le problème se multiplie, le problème s'étale et il est de plus en plus évident. Alors David, on lit au verset 19, David interrogea l'Éternel. Il ne veut pas agir sans l'approbation et sans la dépendance de Dieu. Il a une armée à sa disposition, mais il pose la question à l'Éternel. Monterai-je contre les Philistins? Est-ce que vraiment il faut que je les combatte de plein fouet? Les livreras-tu en ma main? Très belle question. Très courte prière, très belle prière de la part de David. Question simple, sincère, qui vient du cœur. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que tu vas m'aider? Et on voit dans cette petite question, les livreras-tu en ma main, que David n'a pas confiance en sa propre force à lui-même. Il sait que s'il y aura victoire, elle viendra forcément de la part de Dieu. L'Éternel répond. Dieu répond à ce genre de prière, simple, directe. Des prières de la dépendance. Et l'Éternel dit à David, monte. Car certainement, ça veut dire sans aucun doute, je livrerai les Philistins en ta main. Vas-y. Carte verte. Il est maintenant temps d'agir. Et c'est important aussi. Une fois que Dieu nous montre comment il faut agir ou réagir, il faut le faire. Il ne faudrait pas se dire, oh, attends, peut-être plus tard. Alors il monte. Et David vint à Baal-Pératsim, et là, David les frappa. Et voilà, en quelques mots, la victoire est donnée. Nous n'avons pas le détail de cette bataille. Mais David les frappa. Et il dit la conclusion de David. C'est David qui est parti à la bataille avec son armée. La conclusion de David, c'est l'Éternel a remporté la victoire. L'Éternel est avec lui. Et peut-être parfois aussi, nous sommes dépendants au début d'une étape de notre vie, parce que nous en ressentons le besoin. Et puis quand tout va mieux, on oublie. On oublie que c'est Dieu qui nous a aidés à traverser ces difficultés, que c'est lui qui nous a donné la délivrance. On peut oublier de le remercier, de nous avoir donné une victoire. On peut oublier de dire aux autres qu'en fait, c'est Dieu qui nous a fait traverser cette épreuve. Eh bien, ici, David, il dit, « L'Éternel a fait une brèche au milieu de mes ennemis devant moi. » C'est très joli. En d'autres termes, il dit, « L'Éternel m'a montré devant moi. Il m'a montré comment il agit pour me délivrer. » Comme une brèche faite par les eaux. Une brèche faite par les eaux, c'est pas possible de l'arrêter. Lorsque l'eau surabonde, lorsqu'il y a une brèche dans un mur, l'eau passe. Et c'est un torrent qui passe. On ne peut plus arrêter ça. Et bien voilà comment Dieu agit. Quand Dieu fait une brèche, ici il s'agit des ennemis, eh bien les ennemis sont submergés. Il y a d'autres exemples dans la parole de Dieu où les ennemis sont submergés. Moïse avait fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Ils peuvent enfin prendre la route et les voilà bloqués par la mer Rouge et l'armée du Pharaon derrière. Quelle détresse! Mais Dieu va submerger Pharaon et son armée. Il n'en restera pas un, parce que Dieu va agir. Quelle reconnaissance nous pouvons avoir dans notre cœur lorsque nous sommes témoins de la façon dont Dieu balaie les problèmes parfois. Alors, tout va bien. Alors, c'est pourquoi il appelait le nom de ce lieu Baal Peratsim, Baal des brèches. Qu'on s'en souvienne de ce qui s'est passé. Et puis, au verset 22, l'histoire se répète, mais pas tout à fait. Les Philistins montèrent encore de nouveau et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. Tiens, voilà le même problème qui se profile à l'horizon de nouveau. Ah, ben forcément, on va faire la même chose. Non. Parce que nous avons cette tendance, peut-être, de nous appuyer sur notre propre expérience. Parfois, nous disons, oh, nous avons déjà connu ce problème. Nous savons comment faire. L'Éternel nous a déjà montré. Mais ceci nous enseigne que quand un problème se représente, nous ne devons pas nous appuyer sur notre propre expérience à nous. Même si la première fois ça s'est bien passé, nous devons rester dépendants de Dieu et du Seigneur et lui demander de nouveau, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est très facile de tomber dans ce piège, de croire que nous savons déjà. Et si nous savons déjà, nous n'avons pas besoin d'être dépendants de Dieu. Nous l'avons été dans le passé, ce sera comme ça dans l'avenir. Il y a d'autres exemples de ce principe dans la parole. Peut-être pire même. Quand le peuple d'Israël est rentré dans la terre promise, il y avait ce premier obstacle qui était Jéricho. Et ils avaient été dépendants. Josué avait demandé, qu'est-ce qu'il faut faire ? Dieu avait donné ses instructions de manière très précise, très claire, et Jéricho est tombé. Et puis, c'était une grande ville, Jéricho, des grandes murailles. Voilà, Dieu avait donné la victoire. Et puis, il y a la deuxième ville à prendre. Qu'est-ce qui s'est passé ? La petite ville d'Aï. On a envoyé des hommes, ils sont allés voir, espionner, ils sont revenus, ils ont dit... C'est pas difficile. Et on n'a pas interrogé l'Éternel. On a pris des décisions qui étaient logiques. On va économiser notre énergie, on va régler ce problème facilement. On va envoyer qu'une partie de l'armée. On n'a pas demandé à l'Éternel. On avait déjà réussi à faire tomber Jéricho, alors une petite ville comme Haï. Et qu'est-ce qui s'est passé ? La déroute, la débandade. Et le peuple a été vaincu par cette petite ville d'Haï, une première fois. Et il a fallu retourner vers l'Éternel, retourner vers Dieu et lui dire, comment devons-nous agir ? Vous voyez, je vais dire comme ça, avec cette expression moderne, dans la vie chrétienne, nous ne devons pas appuyer copier-coller. C'est pas ça, la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est nous voyons la situation, nous nous tournons vers Dieu. Nous nous tournons vers le Seigneur, nous lui demandons que faire. Et lui va nous répondre. Ça peut paraître quelque chose qui s'est déjà passé. Et malgré tout, comme nous le voyons ici, David interroge l'Éternel. C'est très beau. David est resté dépendant malgré la victoire. Parce que parfois, parce que nous avons, sur base d'avoir obtenu une victoire, nous oublions d'être dépendants. C'est ce qu'on appelle parfois les après-victoires. On se croit fort. On oublie qu'en fin de compte, nous ne sommes pas plus forts qu'auparavant. Et David, ici, interrogea l'Éternel, dit, et l'Éternel lui dit, « Tu ne monteras pas. » Pourtant, l'Éternel va quand même donner la victoire, mais différemment. Différemment. Il va falloir passer par un autre chemin. Et cela nous apprend aussi une leçon très importante dans la vie chrétienne, c'est qu'il y a le résultat qui est donné de Dieu, si nous sommes dépendants. Mais il y a aussi la façon de faire. Et qu'on ne peut pas agir de la même façon pour tous les cas, même s'ils se ressemblent. Qu'il faut traiter les cas et les problèmes qui se présentent à nous dans la vie chrétienne, un par un, au cas pour cas. Et se dire, voilà. Bien sûr, dans la parole de Dieu et dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup d'instructions qui sont très claires et qui sont écrites. Il ne faut pas s'en écarter, il faut appliquer ce qui est dit. Mais il y a beaucoup de questions pour lesquelles on n'a pas de réponse toute faite. Et il faut demander à l'Éternel, il faut demander à Dieu, il faut demander au Seigneur au cas pour cas. Et une fois, il nous demandera d'agir de façon frontale, comme la première fois ici dans ce premier paragraphe, direct. Et une autre fois, il nous demandera d'agir avec peut-être plus de précautions et en empruntant un autre chemin, mais qui mène au même résultat, dans la dépendance du Seigneur. Ici, ça semble être exactement le même problème. Les Philistins montèrent encore, de nouveau, et se répandirent dans la vallée. Il y a quand même une différence. C'est que la première fois, les Philistins ont été attaqués de front. Maintenant, ils s'attendent peut-être de nouveau à être attaqués de front. Ils ont peut-être pris des dispositions de leur côté à eux pour se défendre contre cette attaque. Mais ils n'ont pas pris disposition sur cette nouvelle stratégie, sur cette nouvelle façon de faire que Dieu montre à David. Alors, il dit ici, tourne-les par derrière et tu viendras contre eux vis-à-vis des mûriers. Il y aura aussi un moment où il faudra affronter ce problème, mais différemment, dans la dépendance du Seigneur. Alors tu t'élanceras, car alors l'Éternel sera sorti devant toi pour frapper l'armée des Philistins. Et Dieu répète, moi je vais intervenir. C'est moi qui vais agir pour vaincre les ennemis. Alors, il faudra attendre un peu. Il faudra faire comme un petit détour. Mais alors, à ce moment-là, précis, quand moi je l'aurai décidé, dit Dieu, je frapperai et tu seras présent et tu verras. Et nous voyons là, et David fit ainsi, verset 25. David ne conteste pas en disant, oui, mais la première fois c'était différent et ça a marché alors, pourquoi pas? David ne conteste pas. Il est dit simplement, verset 25, « Et David fit ainsi comme l'Éternel lui avait commandé. » C'est très important de comprendre que ce que Dieu dit, il faut s'y tenir. C'est un commandement, ce n'est pas un des 10 commandements, simplement ce que Dieu dit a autorité. Toute parole qui vient de Dieu ou du Seigneur a autorité et il suffit de le faire. Et il frappa les Philistins depuis Geba jusqu'à ce que tu viennes vers Guézar.
J'aimerais simplement lire quelques passages sans les commenter, en rapport avec ce que nous avons chanté, le verset 6. Christ est ma retraite, mon appui, mon fort. quelques textes des Écritures, dont le psaume 84 pour commencer. Dans le psaume 84, à partir du verset 4, « Bienheureux ceux qui habitent dans ta maison, ils te loueront sans cesse. » C'est là. Verset 5, « Bienheureux l'homme dont la force est en toi, et ceux dont le cœur desquels sont les chemins frayés. Passant par la vallée de Baca, ils en font une fontaine. La pluie aussi la couvre de bénédictions. » Verset 7, « Ils marchent de force en force, ils paraissent devant Dieu en Sion. » Verset 9, « Toi, notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oin. » Verset 11, « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donnera la grâce et la gloire. Il ne refusera aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Livre du prophète Ésaïe, un texte dans le livre du prophète Ésaïe. Il s'agit des paroles prophétiques, mais qu'on peut toujours appliquer à nos circonstances, à notre vie. Ésaïe, chapitre 32, page 500, verset 2. « Et il y aura un homme qui sera comme une protection contre le vent et un abri contre l'orage, comme des ruisseaux d'eau dans un lieu sec, comme l'ombre d'un grand rocher dans un pays aride. » Et on peut aussi lire dans le chapitre suivant, Ésaïe 33, Ésaïe 33, verset 2, « Éternel, use de grâce envers nous. Nous nous sommes attendus à toi. Sois leur bras tous les matins et notre salut au temps de la détresse. »
Lirons encore quelques minutes dans le livre des Proverbes. Proverbes, chapitre 2. « Mon fils, si tu reçois mes paroles et que tu caches par devers toi mes commandements pour rendre ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles le discernement, si tu adresses ta voix à l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent et que tu la recherches comme des trésors cachés, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche procède la connaissance et l'intelligence. Il réserve de saints conseils pour les hommes droits. Il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, protégeant les sentiers de juste jugement et gardant la voie de ses saints. Alors, tu discerneras la justice et le juste jugement et la droiture, toute bonne voie. Si la sagesse entre dans ton cœur et si la connaissance est agréable à ton âme, la réflexion te préservera, l'intelligence te protégera. Pour te sauver du mauvais chemin de l'homme qui prononce des choses perverses, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture pour marcher dans les voies des ténèbres, qui se réjouissent à mal faire, qui s'égaient en la perversité du mal, dont les sentiers sont tortueux et qui s'égarent dans leur voie. » D'abord, simplement un court commentaire. On sait que ce livre des Proverbes parle d'abord au fils, mais il est toujours intéressant d'y revenir, quel que soit l'âge que l'on possède, parce que c'est bien la pensée de Dieu. C'est Salomon qui parle, et Salomon était le fils de David. Et il a pu écrire de telles choses parce que lui-même a pu avoir, en tout cas dans le début de sa vie, cette attitude
dont il parle ici et dans lesquels il exprime en effet ce qui était bon de faire et de rechercher dans sa vie. Alors, on va simplement relever quelques expressions. Si tu reçois mes paroles, verset 2 au milieu, pour rendre ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles le discernement. Voilà, donc toutes des choses que nous devons rechercher. David, bien sûr, il n'a pas été l'homme parfait, pourrions-nous dire, dans toute sa vie, mais Dieu avait décelé en lui un cœur droit, quelqu'un qui était droit devant l'Éternel. S'il faisait des choses telles que l'Éternel s'attendait à lui, alors il recevait cette réponse. Il a parfois été au-delà de ce qu'il devait aller. Il a fait un recensement alors qu'il n'aurait pas dû le faire. Eh bien, il reconnaît ensuite devant l'Éternel, devant Dieu, que voilà, il s'est laissé détourner de la voie. Et nous l'avons lu au verset 10 et 11, et le verset 11 se termine par un deux points. Et donc, on introduit alors dans le verset 12 jusqu'au verset 15, et il y a encore une suite après. On introduit alors voilà, les choses qu'il ne faut pas faire, les choses devant lesquelles nous devons prêter attention, devant lesquelles nous devons résister aussi, mais cela, c'est si on reçoit les paroles de Dieu, si l'oreille est attentive à la sagesse, si tu appelles ton cœur à l'intelligence, pas l'intelligence que nous avons chacun individuellement, qui peut nous servir, et Dieu et le Seigneur peuvent se servir de l'intelligence naturelle, pourrions-nous dire, de quelqu'un, ou de l'enseignement qu'il a reçu dans les écoles. Mais il y a aussi l'intelligence spirituelle, l'intelligence de Dieu qui alors nous montre le chemin. Parfois, comme Hervé l'a dit, mais on a fait comme ça, ou on entend, on a toujours fait comme ça. Et l'intelligence spirituelle peut nous dire, à un certain moment, ben non. Il est peut-être temps de changer, et peut-être temps d'écouter la voix du Seigneur pour nous dire de faire les choses autrement. Eh bien, il y a dans ce début du chapitre 2 tous ces enseignements, toutes ces attitudes, tout ce qui est dans notre personne qui doit agir, qui doit être prête à entendre ce que le Seigneur nous donne. On va revenir au chapitre précédent maintenant, au verset 24. Et on va voir l'attitude totalement opposée. Parce que j'ai crié et que vous avez refusé d'écouter. Parce que j'ai étendu ma main et que personne n'a pris garde. Et que vous avez rejeté tout mon conseil et que vous n'avez pas voulu de ma répréhension. Voilà donc exactement le contraire, une âme là qui ne veut pas entendre, qui ne veut pas recevoir, qui entend une voix mais qui dit non, je ne m'en occupe pas, qui voit quelque chose de contraire dans son chemin, une barrière qui se dresse, mais qui continue malgré tout dans ce chemin-là. Eh bien, alors, la suite est là, verset 26. « Moi aussi, je rirai lors de votre calamité. Je me moquerai quand viendra votre frayeur. Quand votre frayeur viendra comme une subite destruction, que votre calamité arrivera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse viendront sur vous. Alors, ils crieront vers moi, et je ne répondrai pas. Ils me chercheront de bonne heure, mais ils ne me trouveront point. » On a des exemples dans la parole. On en parlait dernièrement. Caïn avait eu cette inimitié contre Jacob. Ésaü contre Jacob. Ésaü avait cette inimitié perpétuelle, nous est-il dit dans la parole, contre Jacob. Et nous savons que Sans doute Jacob n'était pas l'exemple le plus beau à suivre. Il avait toujours cette manière de contourner les obstacles, de s'opposer même à Dieu, on le sait. Mais voilà, il y avait chez Jacob quelque chose que Dieu avait décelé, qui était bon. Ésaü, par contre, n'a fait que dévoyer son chemin. Et puis, à un certain moment, pourtant, il faut aller dans le Nouveau Testament pour avoir cette appréciation. Il a recherché avec larmes ce qu'il avait rejeté. Il avait rejeté son droit d'aînesse. Qu'est-ce que c'est que ce droit d'aînesse? Qu'est-ce que je vais en faire? Et puis après, il a bien regretté ce qu'il avait fait. Mais il n'a pas trouvé de réponse de la part de Dieu. Il y a eu ce que nous venons d'entendre. Ils crieront vers moi et je ne répondrai pas. Il y a donc, voilà, David a entendu, mais l'on sait qu'il y a eu aussi d'autres serviteurs qui se sont trouvés devant des difficultés, de grandes difficultés. Mais on voit que c'est toute notre vie qui est en cause quand nous marchons avec le Seigneur Jésus. Ce n'est pas simplement un fait à un moment donné. Sans doute, le Seigneur peut toujours répondre dans sa grâce, dans sa miséricorde, au-delà même de ce que nous pouvons penser. Mais il y a toute notre vie qui est mise ici dans la balance, pourrions-nous dire, parce qu'il faut voir ce que l'on a fait. On peut, à un certain moment, vouloir faire sa propre vie, avoir ses propres intérêts, chercher après ce qui convient au milieu de ce monde. Et on sait qu'il y a beaucoup d'influence de la part du monde. On en a connu nous-mêmes dans toute notre carrière à travers le travail que l'on avait chacun. Et on sait que les difficultés sont là. Mais il y a aussi notre cœur. Comment est-ce que on se tient? On voit Lot, par exemple. Prenons un autre cas bien connu, Lot. Lot qui avait vu les plaines arrosées du Jourdain, parce qu'ils avaient de grands troupeaux. Les bergers s'étaient disputés avec les troupeaux d'Abraham. Et Abraham dit, ben, choisis. Voilà, choisis. Et si toi, tu vas d'un côté, moi, j'irai de l'autre. Et comme ça, il n'y aura plus de disputes entre nos bergers et nos troupeaux. Et Lot, qu'est-ce qu'il voit? Ben, il voit les plaines arrosées du Jourdain. Des plaines riches de pâturage pour tous ces troupeaux. Et il descend. Et il descend vers ce lieu. Et l'on voit son cheminement, il s'approche d'une ville, et puis il entre dans la ville, et puis après il est à la porte de la ville, et ceux qui étaient assis à la porte de la ville, c'était ceux qui géraient la ville. Et voilà comment Lot a fait des pas en avant vers ce qui lui semblait être pour lui-même quelque chose d'intéressant. Mais nous savons c'est dans quelle ville, les villes où Dieu avait une désapprobation totale sur Sodome et Gomorre. Comment l'homme s'était détourné de ce que Dieu avait créé. Mais la parole vient nous dire aussi que Lot tourmentait son âme chaque jour. Il y a des moments où parfois nous allons dans certains chemins et nous sentons bien que ce n'est pas le bon chemin. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Et parfois on y reste. Par intérêt, je ne vais pas en citer, parce que chacun a son intérêt qui est porté sur une chose ou sur une autre chose. Alors voilà, il faut entendre, et il faut aussi voir la main, parce que j'ai crié, ou parce que j'ai étendu ma main, et que personne n'a pris garde. La main de Dieu qui, à un certain moment, intervient dans nos vies. Elle est intervenue dans ce que Hervé a présenté pour répondre à ce que David demandait. Et il fallait que David installe son royaume dans ce pays. Et les Philistins étaient cet ennemi permanent d'Israël. Mais Dieu a agi pour que David puisse en effet fortifier son royaume. Et pour nous aussi, il y a des moments ainsi où Dieu peut agir Mais il y a des moments où il peut nous montrer que le chemin n'était pas là. On en parlait aussi quant à l'action de l'esprit. On voit dans les Actes, il faut lire ce cheminement que l'apôtre Paul, avec ceux qui l'accompagnaient, a eu pour aller porter l'évangile. Il avait son cœur plein de cet évangile. Il voulait évangéliser tout ce qui correspond à la Turquie aujourd'hui. Il allait de ville en ville pour faire prospérer cet évangile. Et puis, à un certain moment, l'Esprit lui dit, « Non, non, tu n'iras pas à cette ville-là. » Il s'était proposé quelque chose dans son cœur, et on ne peut nullement considérer que Paul agissait de sa propre initiative. L'Esprit l'avait conduit jusque-là. Et à un certain moment, l'Esprit lui dit, « Non, non, Paul, tu n'iras pas dans cette ville-là. Il y en a une autre ailleurs. » Ou il a pu être arrêté dans une ville, et l'Esprit lui a dit, « Maintenant, tu vas rester là pendant un moment, parce qu'un grand peuple va m'appartenir dans cette ville. » Il y avait beaucoup de travail à réaliser. Voilà tous des exemples qui remplissent la parole pour nous montrer que le Seigneur agit, l'Esprit agit pour nous. Alors, au verset 6 du chapitre 2, « Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche procède la connaissance et l'intelligence. Il réserve de saints conseils pour les hommes droits. » Il y a souvent dans la parole cette considération de l'homme droit, d'être réellement ce que l'on est devant Dieu. C'est très important. Dieu lit lui-même ce que nous sommes en nous, et il faut être droit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours essayer de négocier, ni essayer de passer, de contourner nécessairement tous les obstacles pour essayer d'avoir raison, pour continuer. Il faut être droit, droit devant l'Éternel. Et donc, être droit, c'est aussi accepter à un certain moment ce que le Seigneur vient nous dire, en disant, bien, fais cela ou ne fais pas cela. Il réserve de saints conseils. Et ici, à la note, il nous est dit le salut. Voilà, on voit jusqu'où la portée de la parole peut aller dans de telles expressions. Le salut nous est offert. Et il y en a qui bouchent leurs oreilles encore aujourd'hui à ce salut qui est offert, celui que le Seigneur Jésus donne par sa mort et sa résurrection. Eh bien, il est aussi un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Il est évident que si nous marchons dans la compromission, dans la recherche d'avantages, ben, nous ne pourrons pas avoir l'assentiment complet de la personne du Seigneur Jésus dans ce que nous faisons. Eh bien, il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, parce que ce n'est pas évident de marcher dans l'intégrité au milieu de ce monde. Il y a tant d'obstacles, il y a tant de choses vers lesquelles l'homme voudrait bien nous attirer, et l'adversaire surtout, d'une manière très subtile, voudrait bien nous attirer. Mais alors, il est notre bouclier. On a besoin parfois, en effet, d'avoir un bouclier parce que les dards enflammés de l'adversaire, selon ce qui nous est dit dans Éphésiens, eh bien, sont là, contre nous, et il faut lever le bouclier. Voilà, protégeant les sentiers de juste jugement et gardant la voie de ces saints, de ces hommes pieux à la note, c'est-à-dire en qui la grâce se trouve la grâce et la bonté. Voilà donc ces chemins qui sont devant nous, cette voie qui est pour nous, et nous avons à être prudents, à être devant le Seigneur continuellement pour être préservés de dévoyer son chemin, d'aller vers des choses que le Seigneur ne peut pas, dans lesquelles il ne peut pas nous accompagner. On parle souvent d'un enfant, d'un petit enfant qui a peur. Il sent un danger. Encore faut-il qu'il le sente, bien sûr, mais quand il sent le danger, que fait-il? Il cherche après ses parents. Et il vient se blottir, soit auprès de sa maman, soit auprès de son papa, pour dire, oh là, voilà, j'ai une protection, je suis gardé. Eh bien, que nous puissions nous aussi agir encore comme ce petit enfant, en allant à la recherche du Seigneur Jésus, pour nous guider, pour nous enseigner. Alors, tu dis ce verset 9, tu discerneras la justice et le juste jugement et la droiture, toute bonne voie. Le discernement, nous devons le demander. Nous devons le demander sans cesse dans nos vies, le discernement. Discerner les choses bonnes, les choses droites, les choses justes au milieu de ce monde. Et on sait combien ça en est quand on voit encore tant de choses et on entend encore tant de choses aujourd'hui. Obtenir le discernement, mais on voit que ce discernement vient à la fin. C'est le résultat de toutes ces attitudes dans lesquelles nous avons à nous tenir devant le Seigneur. Qu'il nous aide, qu'il nous protège, nous le demandons, mais aussi que nous puissions le voir, le considérer et marcher après lui.